Le Canada, comme d'autres juridictions, les États-Unis, l'Union européenne, a interdit de vol des avions qui proviennent d'Afrique du Sud, de 7 pays du sud de l'Afrique, dont l'Afrique du Sud. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a un nouveau variant d'intérêt, comme on dit, qui est assez inquiétant, le variant Omicron. Ça a été détecté en Afrique du Sud et on va parler de tout ça immédiatement avec Dr. Alex Carignan. Il est microbiologiste infectiologue au CIUS de l'Estrie, CIUS, et prof à l'Université de Sherbrooke. Salut, Alex.
Salut, Patrick.
D'abord, on va se faire un variant 101, OK? Question de rappeler les bases. C'est quoi un variant?
Un variant, en fait, c'est un virus qui a des mutations, qui mute par rapport à un virus, disons, d'origine. Donc, un virus, c'est normal, je vous dirais que c'est ce qu'on voit. Un virus, c'est dans sa nature même de muter. Par contre, bon, il y a certains types de virus qui vont muter davantage que d'autres. Donc, ce qui va amener, en fait, ce qui peut changer ses caractéristiques. Dans le cas qui nous intéresse, bon, ça pourrait changer, entre autres, bon, la capacité, disons, des vaccins à prévenir ces infections avec un variant. Ça pourrait aussi amener des changements dans la transmissibilité d'un virus. Donc, c'est essentiellement les variants. C'est bon qu'on en parle parce que depuis plusieurs mois, on parle souvent des variants, mais souvent, effectivement, c'est une question qui revient. Faut revenir à la base parfois.
OK. Et ce variant-là, Alex, s'appelle Omicron. Pourquoi il cause des inquiétudes particulières?
Bien, pour différentes raisons. D'abord, l'endroit où il a émergé, en fait, une province d'Afrique du Sud, c'est que très, très rapidement, il y a eu une dissémination de ce variant-là. Puis, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remplacé, il a supplanté le variant Delta. Puis, on le sait, le variant Delta, déjà, c'est un virus qui se transmet très bien. Et depuis quelques mois, bon, parfois, il y avait des variants dont on parlait, mais ils n'ont jamais eu la capacité, justement, de supplanter. Donc, il semble avoir un avantage de transmission par rapport au variant Delta. C'est encore à démontrer, mais quand même. Par ailleurs, il y a aussi plusieurs mutations, certaines mutations qui laisseraient penser qu'il pourrait se transmettre plus facilement et aussi certaines mutations qui pourraient amener une diminution de l'efficacité des vaccins. Ceci étant dit, pour l'instant, il n'y a rien de ça qui est prouvé. Et quand même, on doit dire que malgré tous les variants qu'on a traversés depuis le début de la pandémie, en fait, nos vaccins demeurent quand même très, très efficaces. Donc, on espère que ça va se maintenir, mais ça justifie certainement qu'on s'y intéresse.
Mais si je comprends bien, Alex, là, présentement, on est dans les spéculations quant à sa transmissibilité. Là. On n'est pas sûr qu'il soit plus contagieux que les autres variants.
Non, mais ce qui fait qu'on s'y intéresse, c'est qu'effectivement, comme je disais, il a pris la place dans une région. Il a pris la place du variant Delta, ce que les autres variants n'étaient pas capables de faire jusqu'ici. Et aussi, bon, sans entrer dans le détail moléculaire, il y a vraiment de nombreuses mutations par rapport à d'autres variants qui pourraient, disons, s'avérer inquiétantes. Mais là, maintenant, il y a du travail en laboratoire, il y a du travail clinique pour déterminer est-ce que, oui, il se transmet réellement plus facilement, est-ce qu'il peut échapper à nos anticorps, est-ce qu'on peut se réinfecter. Puis ça aussi, c'est une des préoccupations parce qu'il pourrait avoir un risque de réinfection qui est accru. Jusqu'ici, quand même, lorsqu'on fait l'infection, on est quand même bien protégé, du moins pour quelques mois, mais là, ça, il y a des interrogations, puis il pourrait y avoir davantage de risques de réinfection lorsqu'on a déjà fait l'infection avec, par exemple, le variant Delta, on pourrait se réinfecter avec ce variant-là.
Évidemment, la crainte, c'est toujours qu'un variant émerge et qu'il soit capable de percer les défenses vaccinales, là, disons, encore plus que la minorité de cas qu'on voit présentement. Qu'est-ce qu'on sait? Les variants qu'on connaît n'ont pas réussi à casser les vaccins présentement.
Non. Bon, depuis le départ, on voit une efficacité, je dirais, autour de 90, parfois même 95 % d'efficacité pour prévenir l'infection. Ça s'est demeuré ça. Même, disons, le Delta, qui est le pire, si on peut dire, bon, on est tout juste sous la barre du 90 %. Donc, effectivement, jusqu'ici, ça résiste très, très bien, malgré plusieurs mutations qui sont accumulées. Et on espère que ça va être le cas encore une fois.
OK. Alex, c'est l'occasion peut-être de parler de la troisième dose. On en parle de plus en plus. Là, je vois des spécialistes comme Dr. André Veillette, qui est immunologiste, qui plaide pour une troisième dose rapide. Et en commençant par les travailleurs de la santé, là, il y a certains groupes qui vont l'avoir, la troisième dose, en fait, qui ont accès. Tu es sur le comité d'immunisation du Québec. Où loges-tu sur l'importance d'élargir la troisième dose à peu près tout le monde?
Bien, je suis content, en fait, qu'on en parle parce qu'il y a circulé peut-être des informations ambiguës là-dessus. D'abord, c'est vrai, plusieurs personnes se questionnent avec raison sur la nécessité de troisième dose, entre autres chez nos travailleurs de la santé qui sont encore au front. Ce qui amène ça, en fait, c'est qu'on sait que plusieurs endroits dans le monde, on a vu une baisse de l'efficacité au fil des mois des vaccins. On sait aussi que lorsqu'on donne cette troisième dose-là, ça restaure, en quelque sorte, disons, ça ramène l'immunité au niveau qu'elle était au départ. Donc ça, c'est des données qui sont intéressantes, puis en fait, qui encouragent les troisièmes doses, comme à plusieurs endroits, c'est donné. La particularité, c'est que les endroits où on a observé quand même une certaine baisse, en fait, c'est qu'on utilisait les protocoles standards. Entre autres, aux États-Unis, en Israël, on utilisait l'intervalle court. L'intervalle long, allongé, qui était utilisé majoritairement au Québec, on sait maintenant que, bon, ça donne peut-être une légère protection supérieure, puis ça pourrait même, ça, il y a des données, bon, qui n'ont pas été encore diffusées, qui nous ont été montrées, qui montrent que ça pourrait amener aussi une protection, disons, plus longue, qui persisterait plus longtemps. Donc là, évidemment, puis là, on a des données cliniques aussi. On a la chance quand même d'avoir un excellent système de surveillance de l'efficacité vaccinale en temps réel au Québec qui nous montre que, malgré qu'on est à plusieurs mois, là, jusqu'à 6-7 mois de suivi pour les travailleurs de la santé, entre autres, on a une étude particulièrement pour les travailleurs de la santé, il n'y a pas du tout de baisse. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre qu'il y ait une baisse. Puis je pense que le fait que les gens aient mentionné qu'il n'y a pas de baisse, c'est très encourageant. Jusqu'ici, il était interprété comme le fait que le comité d'immunisation balayait du revers de la main les troisièmes doses, ce qui n'est pas du tout le cas. Pour moi, c'est assez clair. Et puis moi-même, je suis un travailleur de la santé. Je veux pas attendre qu'on voit une baisse dans l'efficacité, que ça s'effondre, puis là, qu'on réagisse. Donc là, déjà, on discute, en fait, les troisièmes doses dans différents groupes, dont les travailleurs de la santé. Il y a des travaux en cours, puis évidemment, on veut pas que ça prenne trop de temps. Évidemment, c'est toujours un peu plus long faire des recommandations ministérielles que régler des problèmes sur Twitter. Mais c'est en cours, puis évidemment, puis c'est une question qui est sur la table actuellement, puis je pense qu'inévitablement, on va y venir, puis je pense qu'on a un devoir envers nos travailleurs de la santé. Lors de la première vague, ils ont été souvent échaudés, entre autres avec les pénuries de
masques, etc.
Fait que je pense qu'on a vraiment un devoir. Bon, jusqu'ici, avec le programme vaccinal, on les a très bien protégés, puis il faut que ça se poursuive ainsi, là.
Quelqu'un m'écrit, puis je sens un peu de sarcasme, là, les doses 4, 5 et 6 sont à venir. Est-ce que c'est envisageable qu'il va falloir aller au-delà de 3 doses? Et si oui, est-ce que c'est atypique là, dans l'histoire des vaccins?
Bien, il y a certains vaccins, effectivement, qui ont des rappels annuels. On pense à l'influenza. Il y a certains vaccins, mais ça veut pas dire, parce qu'on donne une troisième dose, que c'est nécessairement, en fait, qu'il va y en avoir à l'infini. Il y a aussi plusieurs exemples de vaccins, ce qu'on appelle des 2+1. Il y en a plusieurs exemples. On donne, par exemple, 2 vaccins au départ, on donne un rappel quelques mois plus tard, et ça stabilise notre réponse. J'ai pas de boule de cristal, je peux pas le dire. Est-ce que ça va prendre des rappels annuels? Est-ce que là, on parle de nouveaux variants, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense qu'il faut évoluer avec l'état des connaissances scientifiques. Si c'est ce que ça prend, on y viendra, mais moi, je pense qu'on y va une étape à la fois. Là, actuellement, comme je disais, on a 2 doses qui ont été données au Québec. On a encore une très, très bonne protection. Puis même si je regarde dans la population générale, ce matin, je calculais dans ma région, mon Estrie, ma belle Estrie, on a encore une efficacité de 85% de notre vaccin. Donc ça, c'est pour toute la population at large. Fait que les vaccins, ils fonctionnent encore très bien. Est-ce qu'on peut faire du fine-tuning? Certainement. Puis je pense que dans les travailleurs de la santé, on est là-dedans. Là. Oui, on se pose la question. Ça va vraisemblablement venir, même si on a quand même une protection qui est quand même intéressante.
Toujours très clair. Bonne fin de semaine, Alex. Merci beaucoup.
Merci.
Salut, à la prochaine. C'était Alex Carignan, microbiologiste, infectiologue.